Point de vue avec Gérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.
Bonjour à toutes et à tous. Les glaces de National League ont vécu à la fois un été indien et un automne fribourgeois. Oui, les points tombent dans l'escarcelle des dragons comme les feuilles des arbres. Tout se passe à merveille pour Fribourg-Oteron qui caracole en tête du classement et qui déjà encourage ses supporters à entonner un « Die Nummer 1 der Schweiz sind wir » dans les travées d'une BCF Arena pleine à craquer tous les soirs de match. Tout se passe même si bien qu'on peut imaginer que dans certains bistrots en Basse-Ville se prononce déjà du bout des lèvres, car toujours un peu tabou, un mot de 5 lettres qui commence par « ti » et qui se termine par « tre ». Nous allons bien sûr évoquer cet excellent début de saison. Je suis Jonas Ruffieux, ravi et honoré d'animer pour la première fois ce podcast. Et je suis accompagné par mon collègue Pierre Chouvet. Salut Pierre.
Salut Jonas, bienvenue. On est content de t'accueillir à ce micro. Tu remplaceras de temps à autre notre animateur François. Et puis quelle intro, franchement, tu marques déjà des points.
Merci Pierre, spécialiste de presse écrite, mais qui fait profiter son expertise de Fribourg-Oteron sur les différents podcasts liés au hockey, Cold Facts, match après match sur Radio Fribourg, Point de vue bien sûr. Comment est-ce que tu gères cette double carrière que tu mènes actuellement ?
Plutôt bien, ouais, les sollicitations pleuvent, j'essaie de garder les pieds sur terre, pas facile, mais non, c'est, évidemment je plaisante, c'est la presse écrite la priorité.
Et puis pour ce 7e épisode de Point de vue de la saison, nous avons le plaisir d'accueillir Geoffrey Vauclair. Salut.
Salut Jonas, salut Pierre, ça joue, ça va les gars?
Mais oui, ça va
parfait.
Merci.
Geoffrey aussi, ton avis est très demandé. Tu étais notamment ce lundi sur le plateau de la télé pour l'émission L'Épocaliste. Forcément, pour commencer, on a envie de te demander, toi qui connais bien la maison fribourgeoise pour y avoir joué entre 2002 et 2009, qu'est-ce qui se passe du côté de la BCF Arena ? Pourquoi est-ce qu'on connaît un tel succès ?
Alors, excuse-moi Jonas, déjà pour commencer, est-ce que le micro et puis le casque est branché ? Parce
Parfait.
Qu'il me semble que je ne vous entends pas beaucoup.
Ah.
Je ne sais pas, je me Alors. Permets de te demander. Ah voilà,
ah.
Voilà, voilà,
ah,
voilà,
voilà,
tu vois, voilà. Voilà. Un petit bisutage pour commencer, hein, Jonas. Voilà, ça c'est fait.
On voit l'expérience. Toi, t'as l'expérience du gars qui enregistre des podcasts, des émissions toutes les semaines.
Faites attention, les gars, s'il y a des places à prendre.
Hein.
Voilà, alors excuse-moi, Jonas. Ta question était de savoir par rapport à cette équipe,
qu'est-ce qui se passe à la BCF Arena ? Comment est-ce qu'on explique un tel début de saison ?
Il se passe que déjà, on a une bonne équipe. Ça, et je crois que personnellement, je m'en étais pas caché. Je me suis fait même un petit peu critiquer parce que j'avais mis, je crois, Fribourg dans les cinq premiers du classement. Alors là, ils vont bien mieux que la cinquième place. Mais moi, j'ai dit très vite que les étrangers, alors on parlait beaucoup du retour de Chris Domenico, était bénéfique. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Wallmark, la signature de Wallmark. Et je trouvais qu'il était sous-estimé, sous-évalué avec son année à Zurich. J'ai trouvé que c'était une belle signature de Fribourg-Oteron, en l'occurrence de Christian Dubé. Le défenseur Borgman, j'en avais entendu beaucoup de bien, mais c'est vrai que j'attendais de le voir vraiment, parce que moi je donne généralement une dizaine de matchs à tous ces nouveaux étrangers qui arrivent dans notre championnat pour me faire un petit peu un avis, mais je crois qu'on peut dire aussi que c'est une sacrée belle signature. Et puis le gros point d'interrogation que j'avais, c'était quand même les gardiens, parce que Reto Berra venait d'une grave blessure. On peut dire qu'après ce début de championnat, ça marche pas trop mal. Son remplaçant, si on peut appeler ça un remplaçant, moi j'aime pas dire remplaçant, hein, c'est-à-dire c'est comme les joueurs de soutien, j'aime pas beaucoup dire ça. Je trouve que Rueger comme gardien, deuxième gardien, fait le job. Alors bien sûr, faut pas se le cacher, on peut pas être un bon gardien si l'équipe devant ne fait pas le boulot. Et moi, il y a beaucoup de gens qui parlent de cette équipe de Fribourg offensivement, ok, d'accord, mais moi ce qui me fait vraiment plaisir, c'est la défensive de Fribourg. Je pense qu'on met pas assez en avant le travail, parce qu'il y a des Yecker qui fait du bon boulot depuis pas mal d'années, mais bien sûr qu'on en parle un peu moins parce que c'est pas forcément un buteur, mais tu peux pas aller au bout si t'as pas de joueurs comme ça. Souter est blessé, mais quand Souter est là, c'est quand même un plus. Et puis Diaz fait le boulot. On peut parler de beaucoup de joueurs qui font bien le boulot en défensive pour moi, et peut-être un point qu'on n'a peut-être pas beaucoup parlé, c'est la gestion de Christian Dubé. Il me semble que Christian Dubé en fait un petit peu moins, qu'on le voit un petit peu moins devant les caméras. Alors il était malin, il envoie les coachs assistants devant les caméras quand il y a des trucs à dire, surtout quand Fribourg perd. Alors Fribourg n'a pas perdu beaucoup cette année, mais quand Fribourg perd...
Il y a eu deux défaites, il y a deux assistants, c'est bon.
Exactement, ben, il faudra engager d'autres assistants s'il y a des autres défaites. Mais je trouve qu'aussi la gestion de Christian Dubé, parce qu'on peut parler de progresser en tant que joueur, mais je pense aussi peut-être qu'il faut dire progresser en tant qu'entraîneur. Et ça, actuellement, je trouve que Christian Dubé gère bien son équipe. Alors c'est bien sûr tout, beaucoup plus facile quand ça gagne. Ça serait intéressant de voir quand ça va un petit peu moins bien, parce que je connais bien Christian Dubé, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais j'aimais pas tellement ces fameux coups de gueule où il foutait un peu la pression sur l'équipe, parce que en tant qu'ancien joueur, je sais que ça peut marcher une ou deux fois, mais si chaque fois que ça va pas, tu dis clairement qu'il faut que les joueurs se bougent le cul, tu peux perdre ton équipe. Et là, je trouve que Christian Dubé, pour le moment, gère bien son équipe. À voir quand ça ira un petit peu moins bien, parce que à mon avis, il y aura quand même un petit peu un coup de moins bien, mais je me fais pas trop de soucis, parce que il me semble que le danger peut venir de tous les côtés de cette équipe de Fribourg. C'est-à-dire que quand il y a une ligne qui marche un peu moins bien, ben tu as une autre ligne qui peut marquer. Il y a le 3-4e bloc, si on peut appeler ça les 3-4e blocs, parce que quand tu vois les noms qu'il y a dans les 3-4e blocs, il y a beaucoup d'équipes qui tueraient pour avoir un Julien Sprunger dans le 3e bloc, par exemple. Ou un Kylian Motet comme 13e attaquant.
Ouais, c'est de l'histoire ancienne. Ça. Ouais. Il a réintégré la 3e ligne. Ouais. Bah, tu nous as déroulé le sommaire là, en
ouais,
fait, finalement.
Hein, c'est bon, bah, bonne journée, les gars.
Ouais, exactement. Tu as donné déjà beaucoup d'informations. On va y revenir, mais je propose juste de donner quelques chiffres quand même.
Fais-toi plaisir.
Avant d'aller plus loin dans ce podcast, on a évoqué le fait que Gauthieron était premier au classement. C'est vrai, 14 matchs, 12 victoires, une seule défaite après le temps réglementaire. Faut quand même le dire. L'autre, elle a été au tir au but à Zurich. 34 points, soit une moyenne de 2,43 points par match, 47 buts marqués, 25 encaissés et surtout cette incroyable série de 8 victoires de suite, série en cours. On a un peu l'impression que quoi qu'il arrive, Gauthieron va prendre les devants et ne plus être inquiété. C'était vraiment le cas lors du match face à Kloten vendredi dernier. Ça l'a été aussi, je trouve, samedi à Rapperswil. Est-ce que c'est aussi ton sentiment, Pierre ?
Oui, alors tout tourne du côté de Fribourg. Ils mènent au score, ils mettent le 2-0. Il y a le 2-1 qui tombe, mais voilà, il y a le 3-1 derrière une minute et quelques plus tard, alors qu'il y a eu un poteau entre deux. Donc ils ont aussi un peu cette baraka qui permet d'engranger des gros points. On a l'impression que ce match à Rapperswil, ils peuvent aussi le perdre. Ils l'auraient peut-être perdu l'année passée, mais là ils ont voilà cette efficacité devant. Ils ont ce gardien qui fait ces gardiens qui font les arrêts au bon moment. Brian Rueger, tu l'as évoqué, Geoffrey, qui moi m'a impressionné en tout cas sur ce match à Rapperswil, parce que voilà, c'est un gardien qui est toujours capable de faire une grande performance sur un match, mais j'ai aussi beaucoup aimé l'attitude, ses déplacements, le côté dynamique dans ses mouvements. Et ouais, bah voilà, Fribourg pour l'instant est inarrêtable.
Et Fribourg joue avec beaucoup de sérénité, de calme, d'assurance. Geoffrey, on peut lier tout ça à un panel d'explications, mais il y a quand même une comparaison qui est souvent revenue. Le Gauthieron de la saison passée, le Gauthieron de la saison il y a 2 ans, et celui-ci, il y a beaucoup de gens qui disent, bah voilà, on retrouve le Gauthieron d'il y a 2 ans. Est-ce que toi, c'est une explication qui te convainc ou pas forcément ?
Non, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé en 2 ans, quoi. On a quand même changé le nombre d'étrangers. Donc pour moi, c'était un grand changement pour Fribourg, mais pas seulement. Ça a changé énormément dans la Ligue. On voit le niveau de la Ligue actuellement. Je ne sais pas si on a eu un aussi bon niveau sur les 2 dernières années. C'est juste incroyable. Après, on se rend compte quand même que malgré tout, on nous a vendu 6 étrangers en nous disant « ouais, ça va faire économiser les clubs ». Quand tu vois les noms des mecs qui arrivent, ici ou ailleurs…
On attend toujours les Slovènes et les Polonais.
Voilà, je veux dire, au bout d'un moment, des équipes qui veulent gagner, ben, mettent le paquet, quoi. C'est ça. Hein. Et Fribourg, alors tant mieux pour eux, hein. Ils ont du budget du fait du nombre de personnes qui viennent au match avec cette nouvelle patinoire. Mais moi, j'aime bien cette équipe de Fribourg, honnêtement. Bon, j'y jouais ici presque 10 ans, donc il y a de quoi aimer Fribourg. Mais je trouve que c'est bien équilibré, c'est bien pensé. On a amené des joueurs clés à des endroits où on avait besoin. On a perdu Desharnais, alors tout le monde se faisait du souci pour Desharnais suite au départ de Desharnais. Et c'est vrai que moi aussi, parce que j'aimais beaucoup ce joueur, c'était un joueur qui n'était pas forcément flashy, mais il était bon dans tout. Et Wallmark est un peu le même style. C'est pas un grand patineur aussi. En tout cas, il a pas l'air comme ça, mais des fois, c'est des faux lents. On appelle ça des faux lents. Mais il fait tout juste. Il est bon passeur. Il a un peu moins, il peut marquer des buts quand il faut. Je trouve qu'il bonifie Sorensen. Et puis, il faut pas oublier aussi la bonne saison de Nathan Marchand, hein, qui était aussi attendu au tournant, qu'on a prolongé de 4 ans. Alors, je suis très heureux pour lui. Puis je suis très heureux pour Gauthieron, parce que pour moi, Nathan méritait de rester à Fribourg. Et je parlais avant de Christian Dubé, il faut laisser à Dubé le fait d'avoir eu le courage de mettre Nathan Marchand. J'ai rien contre Kiki, moi j'aime beaucoup Kiki, on se connaît aussi depuis pas mal d'années, mais c'est vrai que Kiki a un début de saison un peu plus compliqué, on a décidé de mettre Marchand à sa place, ça marche bien, donc pourquoi changer une équipe qui gagne? Vous savez, enfin Pierre, pour suivre, tu suis Gauthier depuis pas mal d'années, et le hockey en général, dans une équipe, il y a des joueurs à un certain moment qui ont des baisses de régime. Donc Kylian Motet, à un moment, risque de remonter dans les deux premiers blocs. Et ça, c'est très important. C'est une flexibilité qu'on n'avait pas avant à Fribourg-Gottéron.
Ça sera difficile de lui trouver une place, en tout cas, vu le niveau de ses
actuellement, deux lignes. Actuellement, oui, mais on pourra...
Il peut bonifier la troisième en retrouvant un peu de confiance.
Exactement. Si ça marche un peu moins bien... Le luxe de pouvoir faire monter un Kylian Motet. Je te jure qu'il y a beaucoup d'équipes qui mettraient Kylian Motet tout de suite dans leurs deux premiers blocs.
Ajoie, par exemple.
Alors Ajoie, premier, deuxième, premier à gauche, premier à droite, deuxième à gauche. Même. Non, c'est clair que Ajoie, on saute dessus, hein, mais voilà, on sait que c'est... financièrement, je pense qu'à Ajoie, c'est compliqué quand tu sais le budget à 13 millions quelque chose pour tout le club en général, puis que tu sais que tu connais les budgets plus ou moins, parce que bien sûr les clubs nous cachent un peu leur budget, mais on sait que en dessous de 25 millions maintenant pour toucher le titre, ça devient très compliqué. On a eu dernièrement le président de Genève Servette, Monsieur Bechler, qui a très bien parlé au Pocaliste.
Qui a l'air très sympa. Ouais,
très bien, oui, oui. Honnêtement, moi, ça fait deux fois que je le rencontre. Je dois dire que c'est quelqu'un qui, quand tu as quelque chose à dire, qu'il le dit, qui botte pas en touche. Et il nous a dit clairement que voilà, Genève, depuis 2 ans, au niveau financier, est dans le top 4 du budget. Et alors, il a dit 4 au début, pas après 6, mais je pense que 4, on n'est pas loin de ça. Donc voilà, maintenant, pour régater, on sait que c'est le nerf de la guerre. Fribourg a bien sûr qu'il faut la nouvelle patinoire fait quelque chose, mais fait surtout financièrement. On a ramené des joueurs comme Diaz, comme Berchi, comme Chris Dominico qu'on a pu ramener. C'est aussi parce qu'on est capable de mettre financièrement sur la table. On essaye de garder Reto Berra, hein, et je pense que l'aspect financier, comme la dernière fois qu'il a signé, sera très important pour lui, parce qu'une carrière ça ne dure pas très longtemps, quoi.
Il y a de l'argent, c'est vrai, mais il y a aussi un budget à respecter.
Exactement.
Ce qui n'est pas forcément le cas de Genève, de Zurich, qui peuvent en cours de route aller chercher un Tim Bernier, un 7e étranger préventivement, etc.
Ah oui, alors effectivement, je pense que si tu prends Zurich, Genève, Zug, je pense qu'une équipe comme Berne aussi, voilà, mais il y a quand même, je trouve, beaucoup plus d'équipes qui sont capables, du fait de leur augmentation de budget, de toucher au but final qui est le titre, comme t'as bien dit, Jonas. Alors moi, tu as dit, Jonas, ouais, écoute, il a dit, ouais, on n'ose pas trop le dire, mais on vise le titre. Mais pourquoi on n'ose pas trop le dire? Moi, je veux dire, Fribourg, dans l'état actuel, puis ça fait plusieurs années que je le dis, mais il n'y a pas de honte à dire, les gars, on vise le titre. Puis si tu te casses la gueule en chemin, eh bien, tu dis, voilà, on s'est fait un croche-pied, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour aller au bout? Et il me semble que Fribourg, on a un petit peu ce syndrome de ces deux défaites en finale, je ne sais pas combien de décennies en arrière, avec les deux Russes, tout le monde pensait que Fribourg allait gagner. Et puis on dirait qu'à cause de ça, on ne veut pas réveiller les équipes adverses. Vous savez, les équipes adverses, elles ne sont pas folles. Elles savent que Fribourg, avec l'équipe qu'il y a, elle peut aller au bout. Donc, il ne faut pas avoir peur de dire, voilà, nous, on veut aller au bout. On fera tout pour y arriver. Et puis, malheureusement, si tu n'y arrives pas, ce n'est pas la fin du monde. Hein. Il n'y a qu'un élu pour 14 places, quoi.
Ouais, c'est en tout cas la mentalité de gagnant qu'essaye d'instaurer Christian Dubé. J'aimerais justement qu'on parle, bon, tu en as déjà parlé tout à l'heure.
Excusez-moi, j'ai un peu beaucoup parlé,
allez, t'es là pour ça.
De Christian Dubé, un homme qui quand même a été passablement remis en question, du moins par l'opinion populaire en fin de saison passée, après l'élimination en pré-playoff face à Lugano. Ce début de saison, il fait plus que prouver qu'il travaille bien en tant que coach. Déjà, on ne peut pas lui demander vraiment davantage. L'équipe tourne parfaitement, les joueurs ont l'air de prendre beaucoup de plaisir. Bien sûr, on n'est pas dans l'intimité du vestiaire, mais ça a l'air l'air de se passer vraiment bien. Et puis Christian Dubé, le directeur sportif, qui a bâti au fil des saisons l'équipe qu'il voulait. On ne peut pas lui enlever non plus qu'il y est parvenu. Fribourg aligne une équipe qui a de l'allure. Et les transferts effectués cet été sont bons, voire excellents, si on pense à Andreas Borgmann par exemple, ou Lucas Vallemark qui, selon moi, fait un très bon début de championnat, même sans étinceler en termes de points. Pierre, tu es peut-être le journaliste qui a le plus côtoyé Christian Dubé ces dernières saisons.
Ça fait combien d'années, quoi, Pierre?
Ça fait sept ans que je le vois presque. En tout cas, toutes les semaines.
Ouais. Presque quotidiennement, qu'est-ce que tu peux dire? Quelle différence tu vois entre ce Christian Dubé de, la saison, de cette saison et celui de la saison passée? Est-ce qu'il a évolué dans sa réaction aussi aux interviews?
Il est beaucoup plus calme, mais après, en même temps, il n'a pas encore vraiment... Il n'y a pas eu de contexte qui a fait qu'on pourrait avoir un Christian Dubé un peu plus corrosif, explosif. Mm-hmm. Je pense que ça reste dans sa nature, c'est quelqu'un d'impulsif. Donc, s'il y a une série de défaites, on risque de revoir le Christian Dubé de l'année passée. Je ne pense pas qu'il ait diamétralement changé. Mais je pense quand même qu'il a appris de ses erreurs de l'année passée, notamment au niveau de la stabilité des lignes. On voit qu'il ne change même plus pendant un match. Quand Gauthieron est mené, il insiste un petit peu, ce qui n'était pas du tout le cas l'année passée, bon nombre de fois, alors que Gauthieron était en arrière après deux tiers. Voilà, il brassait déjà. Là, on sent qu'il a une structure, qu'il est certainement aussi mieux appuyé avec une personne en plus, Patémon, qui est quand même un entraîneur qui était
très, très
finaliste
bon.
en 2021 avec Genève Servette comme entraîneur principal. Donc, il a des qualités. Il amène un petit peu un côté peut-être plus posé par rapport aux deux chiens fous que peuvent être Christian Dubé et Pavel Rosa. Donc c'est une autre figure dans le vestiaire, donc ça lui fait aussi énormément de bien. Christian Dubé a su un petit peu s'adapter et pour faire aussi en sorte que le vestiaire ait du plaisir et retrouve l'envie de travailler. Alors pas avec lui, il ne travaillait pas contre lui avant, mais c'est vrai qu'il y avait quand même des signes un petit peu de lassitude qu'on pouvait voir l'année passée qui étaient forcément liés aux résultats. Là, tout va bien. Il faudra quand même voir sur la durée comment ça se passe. Mmh. Tu parles du bilan de Christian Dubé. Là, il est basé sur 14 matchs. Tout va bien. Donc forcément, on a envie d'applaudir l'entraîneur, applaudir le directeur sportif. Mais après, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Si les playoffs avaient lieu au mois d'octobre, sans doute que Gauthieron aurait peut-être déjà quelques titres de champion. Parce que les bons débuts, c'est un petit peu l'apanage des Fribourgeois. Il y a plein de signes positifs et oui, c'est une victoire personnelle pour Christian Dubé d'avoir réussi un petit peu à retourner l'opinion en sa faveur.
En fait, si tu réfléchis bien, tu peux faire ce que tu veux comme coach. Hein. Tu peux être le meilleur coach du monde si les résultats suivent pas. Je veux dire, ça n'empêchera pas que tu perds ton travail. Christian Dubé savait, je pense, qu'il jouait quand même un petit peu sa tête en début de championnat. Il ne faut pas oublier que les trois premiers matchs n'ont pas été si terribles. Donc c'est là que tu vois que des fois, ça peut jouer à certains petits détails où si tout d'un coup, Fribourg avait mal commencé, tu as la pression qui commence, tu as les gens qui s'énervent, tu brasses tes lignes, hein, parce que quand même, c'était un peu sa marque de fabrique. Et puis ça peut mettre tout le monde en rogne dans le vestiaire. Alors c'est vrai que comme tu l'as dit bien, Pierre, avant, je pense qu'il faudra voir quand ça ira un peu moins bien. Parce que c'est rare qu'une équipe... Vienne et Genève l'ont un peu fait l'année passée, dominent un peu tout le championnat. Et je pense que Fribourg aura des moments un petit peu moins bien cette saison. Et c'est là qu'on verra en fait la gestion de l'équipe et en l'occurrence individuelle que Christian fait avec ses joueurs. Parce que on sait que dans des équipes, il y a beaucoup de caractère, il y a beaucoup d'ego. Quand tu gagnes, et moi j'ai vécu ça, les joueurs acceptent beaucoup plus certaines situations que quand tu perds. Et pour le moment, ça se passe bien, mais il faut quand même garder son sang-froid. Mais je pense quand même qu'il y a de quoi faire cette année avec cette équipe de Fribourg-Gotteron.
Brasser les lignes, j'imagine que c'est quelque chose que tu as vécu comme joueur aussi. À quel point c'est désagréable, finalement, de toujours changer, d'avoir aucune stabilité comme c'était le cas l'année passée?
Alors, comme tu sais, moi, j'étais déjà un clubiste. Hein. J'ai fait que deux clubs en National League. J'ai fait Lugano et puis Fribourg. Et puis, quand je suis parti de Lugano, c'est parce que j'avais envoyé bouler le coach devant tout le monde. Donc, voilà. C'était Bilia Tedinov. C'était un grand joueur russe et puis un grand coach russe. Mais c'était pas une raison pour qu'il me manque de respect. Alors, je vais pas aller dans le détail. Mais voilà, moi, j'ai été éduqué comme ça. Quoi.
Tu l'as envoyé bouler en russe ou...
Non, j'ai envoyé un bouler en anglais, avec un anglais avec un accent bien jurassien. Mais il ne t'en fait pas, il a compris. Et puis, voilà. Puis, je me souviens encore des joueurs en face de moi qui Il y avait Olivier Keller qui me faisait comme ça, non, dis rien. Puis parce qu'il avait quelqu'un que vous connaissez bien. J'étais toujours un peu la tête de Turc, excusez-moi de le dire, de ce bonhomme. On était deux, il y a moi, Pian Cadieux. Donc il a commencé, on perdait match sur match, puis il ne me faisait même pas jouer. Puis à la fin de chaque match, c'était de ma faute, et puis de celle de Yann Cadieux. Puis bien sûr, j'ai explosé. Et puis derrière, je n'ai pas voulu m'excuser parce que j'estimais qu'il n'allait pas m'excuser. Puis je suis monté au bureau, j'ai dit, écoutez, il faut que je parte, ça veut pas aller quoi, parce que je vais arracher la tête quoi, je sais pas. Puis bon, je suis venu à Fribourg, donc comme quoi des fois la vie fait que. Bref, on en était où tu me demandais par rapport si j'ai connu moi les changements de ligne. Voilà, j'y viens. Alors je dois dire j'aimais pas changer de ligne aussi, parce que je pars du principe qu'au bout d'un moment tu commences à connaître, quand tu as des joueurs avec lesquels ça va bien et puis tout d'un coup l'équipe va moins bien, pour retrouver tes marques, alors faire quelques petits changements, ça fait pas de mal. Mais si des coachs qui changent tout, c'est pas forcément très accepté d'investir, et surtout si tu as un coach qui met en avant certains joueurs qui devraient pas. Moi, je pars toujours du principe que les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Et j'ai vécu ça où il y a des... Alors, je ne dis pas que Christian Dubé fait ça, mais si il y en a un petit peu qui ont des passe-droits, ça passe quand ça gagne, mais quand tu perds, ça passe beaucoup moins. Et ça fout la merde d'en investir, pardonnez-moi du mot. Donc, je ne pense pas que... Et on sait que Christian Dubé, l'année passée, c'était quand même un peu compliqué à la fin de saison. Il y a quand même des questions qui sont posées à savoir s'il continuait ou... Oui ou non, et même lui me l'a dit au Pokalist quand il est passé, et je pense quand même qu'il a appris de ça, il a quand même discuté avec ses leaders, alors bien sûr qu'il faudra faire attention de respecter ce qu'on avait convenu, enfin ce qu'il a convenu, il ne faudrait pas qu'il reprenne peut-être ses mauvaises habitudes, et je l'ai dit en début d'émission, quand tu commences à chaque fois à pointer ton équipe quand ça ne va pas, dire « c'est les joueurs, moi j'ai fait tout mon possible », non, moi je pars du principe que le coach fait partie de l'équipe, donc tu gagnes en équipe, tu perds en équipe. Mais les très grands changements de ligne, surtout plus tu prends de l'âge, moins ça fait plaisir quand tu dois changer de partenaire. Quoi. Voilà.
Ouais, la routine, très important.
tous les sportifs de haut niveau, tu peux regarder pourquoi au tennis, les mecs, ils font exactement la même chose avant de balancer la balle, au football. Il y a plein de sportifs de haut niveau, c'est limite maladif, certains. Mais c'est comme ça, pour être dans leur match, ils sont obligés d'avoir des choses comme ça. J'en parlais l'autre jour, j'ai eu Alain Birbaum à l'émission. C'était quelqu'un qui était très structuré avant le match. Alors nous, on s'en foutait, hein, avec Sean Hines, on l'embête. Était pas mal dans sa préparation de match, mais je me souviens aussi de Gianluca Mona, alors les gardiens c'est un petit peu plus spécifique, mais qui était un mec en dehors du match, c'était un mec, tu disais c'était deux personnes différentes, quoi. Vraiment deux mecs différents, avant match, purée le mec c'était une machine de guerre, puis après toute la semaine il était beaucoup plus relax.
En parlant de routine, je suis allé voir Ryan Gunderson chez lui pour voir comment il se préparait, comment il faisait pour être aussi fit à l'âge de 38 ans. Ça promet un sujet intéressant à découvrir chez votre marchand de journaux vendredi.
D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit teasing?
Mais il le porte sur lui un petit peu. Quand tu le vois jouer, tu sens que c'est quelqu'un de très structuré, mais pas seulement sur la glace. Quoi.
Petit teasing. Alors, Ryan Gunderson m'a joué du keyboard. Il a joué Simply the Best. très beau moment. Je lui ai dit, mais tu pourras peut-être même jouer quand tu auras le titre et tout. Il a dit, non, c'est pas pour moi, et rester modeste. Et puis, sinon, il m'a montré ce qu'il prenait pour le déjeuner. Alors, il y a de l'os à moelle, il y a du foie de bœuf.
Faut qu'il vienne à la Saint-Martin, le mec.
on lui proposera. Saint-Martin.
Il s'y plairait sûrement. Très bien, je vous propose de passer au deuxième thème de cet épisode que j'ai nommé « La deuxième saison, c'est la bonne ». Rappelons que c'est la deuxième saison durant laquelle les équipes peuvent aligner 6 joueurs étrangers, ce à quoi, à mon avis, Fribourg a eu un petit peu de peine à s'adapter lors du premier exercice. On parle souvent de deuxième saison pour les renforts étrangers qui doivent se faire à un nouveau championnat, à des nouveaux coéquipiers et à des nouvelles manières de faire. Mais pas que, Gauthieron bénéficie cet automne des excellentes performances de plusieurs joueurs arrivés l'an passé. Je vais passer en revue quelques joueurs dont c'est la deuxième saison ou comme si, et vous me donnerez votre avis sur ce joueur. Est-ce que ça vous convient?
Ouais, tu veux faire un petit bruit qu'on valide demain?
Ouais. je pense que vous allez pas mal valider, mais okay. On va voir. La deuxième saison, c'est la bonne pour Marcus Sørensen.
Validé.
Clairement validé, ouais.
Alors, petite anecdote, je me souviens d'un match à Bienne l'automne dernier qui n'avait pas eu lieu pour des raisons de brouillard dans la patinoire.
C'est juste.
Et j'étais sur place et j'en ai profité pour discuter un moment avec Pavel Rosa qui me disait « c'est pas une si mauvaise nouvelle que le match soit reporté parce que Sørensen était blessé en début de saison. » Il disait « ça nous permettra de jouer ce match certainement avec Sørensen. » Ce qui, moi, j'avais vu jouer Sørensen à peu près une minute lors du premier match de Ligue des Champions durant lequel il s'était blessé.
Cassé la main,
je ne sais même pas s'il a fait une minute.
C'était sur le premier shift et je m'étais dit, mais il en attend vraiment beaucoup. Il doit vraiment être exceptionnel, ce Marcus Sørensen. Alors, on le savait, mais ça restait encore à confirmer. J'ai l'impression que la confirmation des propos de Pavel Rosa est venue cet automne 2023.
Mais je pense que c'est un bon joueur, mais il bénéficie aussi du fait qu'il y a plusieurs artificiers du côté de Fribourg-Gotteron. Donc le danger vient d'un peu partout. Hein. Et ça, c'est clair que si avec lui, ça serait beaucoup plus facile pour les autres équipes. Mais je pense que Sørensen est un bon joueur. Moi, j'aime bien parce qu'il est un petit peu... au Québec, ils appellent ça, il est un peu chien. Quoi. Donc des fois, il n'a pas peur d'aller au contact, d'un petit peu
chamailler.
Hein, il est piquant, voilà, exactement. Donc pourtant, ce n'est pas un gros joueur. Ce n'est pas une machine de guerre, mais il ne se laisse pas marcher sur les mains. Puis moi, j'aime beaucoup. Mais je pense effectivement que le fait d'avoir aussi Wallmark avec, et puis Nathan qui fait un sacré boulot dans les bandes et tout ça, ça fait beaucoup, parce que si les équipes adverses pouvaient se concentrer que sur lui, ça serait beaucoup plus compliqué. Quoi.
Il est en état de grâce aussi, il faut le dire, hein. 30% de réussite,
ça va pas durer, c'est
intenable sur une saison. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup chez Sørensen, au-delà de ses buts, de ses points, c'est que je trouve que dans l'attitude, il est bien meilleur, dans le repli défensif, dans tout. C'est que je trouvais l'année passée, et aussi un petit peu en début de saison, qu'il avait une nonchalance crasse qui m'énervait en fait. Et là, sur ces derniers matchs, notamment à Rapperswil, je le trouvais vraiment excellent et investi, généreux. Et c'est des qualités que je ne retrouvais pas chez lui. Donc, pourvu que ça dure, parce qu'il est beaucoup plus agréable à voir, parce que c'est un artiste, il est très très bon avec le puck. Mais il avait un peu cette facilité au début, qui à mon avis l'a un peu prétérité. Est-ce qu'il a sous-estimé le championnat de Suisse, lui qui venait de NHL, en se disant je fais un pas de retrait, maintenant je vais pouvoir faire ma petite cuisine, ça va passer, je vais faire mes points. Peut-être qu'il s'est un petit peu trompé là-dessus et qu'il s'est réajusté. Mais non, c'est un autre Sørensen qu'on voit dernièrement.
En fait, son body language est un peu comme ça, si tu regardes. Il est très smooth, on dit en anglais, je sais pas comment le mot en français, mais c'est quelqu'un, tu dis, ouais, mais il patine qu'à 80% de ses possibilités. Il a aussi un visage assez fermé, un peu désinvolte des fois. Puis c'est vrai que ça peut passer pour du je m'en foutisme, mais c'est pas ça. Je pense qu'il est comme ça, c'est un bon joueur. Moi, je trouve qu'il est bon aussi à la passe, c'est pas un mauvais passeur, et voilà. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser au premier regard que ça pourrait être un joueur énervant, mais je crois qu'il aussi, il y a une autogestion dans cette équipe qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a d'autres leaders, et lui, il le sait, que s'il fait pas son boulot, on va lui dire « écoute, gros ». Là, on a une vidéo, on te voit là, partir en attaque comme un fou furieux. Par contre, pour revenir... bof quoi, c'est pas terrible. Et moi, en tout cas, quand je jouais, des gars comme ça, alors quand ça va, t'es un peu moins regardant, mais si ça va pas puis que t'as des mecs qui se comportent comme ça, je peux te jurer que les leaders tu allais lui dire quelque chose. Donc ça, c'est important. Mais je trouve aussi que son attitude, tu l'as bien dit Pierre, est différente de l'année passée. Et je pense aussi le fait d'avoir peut-être sous-estimé la ligue, c'est pas le premier, mais regarde, même un Malguin qui a joué en Suisse quelques années, qui a le NHL l'année passée, puis qui est un sacré joueur, cette année ça... En tout cas, il a un début de saison un peu plus difficile à Zurich. Et voilà, quoi. Je veux dire, tu ne peux plus, que ça soit un joueur ou une équipe, tu ne peux plus jouer à 95% de tes capacités pour gagner les matchs. La concurrence est telle, même quand tu vas taper un Ajoie, qui est sûrement au niveau de talent quand même bien inférieur à pas mal d'équipes, le fait de la structure des équipes, de la structure du jeu, on va dire de la technique de jeu, du système, fait que tu ne peux plus patiner sur un patin, parce que tu reviens là, excusez-moi du mot, mais la queue entre les jambes de ne pas rentrer avec zéro point, et ça arrive à Fribourg, ça arrive à pas mal d'autres équipes. Donc même quand ils vont à pour rentrer, on met la Mannschaft, hein, on ne met pas une moitié d'équipe, et puis on y va préparer. Quoi. Voilà.
Tu disais, il y a des joueurs qui doivent reprendre un petit peu ce genre de joueurs qui prennent des libertés. À ton avis, à Fribourg, c'est le rôle de qui ? Est-ce que c'est le rôle du capitaine Sprunger ou des gars expérimentés ? Ou est-ce que même les jeunes peuvent venir ?
Alors, en fait, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est toujours le capitaine qui gère ces trucs-là, mais c'est pas forcément ça. Il y a des leaders naturels dans un vestiaire, pas forcément les mecs qui ont 25 points ou 25 goals par match. Alors, moi, j'avais... c'est une autogestion qui se passe. Il y a des gens qui prennent le dessus, puis surtout par l'exemple. Moi, je trouvais que les mecs qui crient à chaque match, au bout d'un moment, il n'y a plus personne qui les écoute. Par contre, le mec qui montre l'exemple sur la glace, qui bloque des shoots, qui fait des checks, qui a la rage, des trucs comme ça, le jour où il ouvre la bouche, il y a tout le monde qui se dit dans le ciel, ouh, lui, il dit quelque chose, ça veut dire qu'il faut qu'on bouge. Et je ne dis pas que ce n'est pas Julien Sprunger, parce que ça fait quand même longtemps que je ne suis plus allé investir avec lui. Mais
il y a encore la grille quand tu joues.
Pas loin d'avoir la grille, en tout cas, ça c'est sûr. Mais je me souviens, je peux donner un exemple clair et net. On était avec Heinz, on faisait du patinage. On faisait du patinage, donc il nous faisait patiner. Là, le Serge Pelletier, je pense que c'était pendant la pause, l'équipe de Suisse. Puis tu vois, ligne bleue, retour, machin, tout ça. Puis Anzi, je me souviens qu'on était les deux, on venait fous, quoi, parce qu'il y avait Adrien Lauper, qu'on salue au passage, hein, qui freinait toujours 20 ou 30 cm la ligne. Et bon, au bout d'un moment, on allait vers lui, il y a des coutes, la ligne, elle est là. Soit tu freines là, soit la prochaine fois, tu vas prendre un cross-check ou un truc comme ça. Après, il freinait, quoi. Il freinait comme ça. Parce que si tu triches à l'entraînement, mais bon, Adrien était très jeune à ce moment-là, il avait 18 ans peut-être. Donc, si tu triches à l'entraînement, automatiquement tu vas tricher en match, donc autant arriver, moi je préfère arriver le dernier au patinage parce que c'était pas le plus rapide, mais au moins de faire tout juste parce que tu dois te comporter comme ça, montrer l'exemple, que moi j'estimais que personne devait avoir un truc à me reprocher. Et il me semble que maintenant au niveau parce que moi ça allait quand même un petit peu moins vite, mais le niveau actuel du championnat suisse, ben, je l'ai dit avant, tu peux plus te permettre de, en tant que joueur ou en tant d'équipe, à être à 5% en dessous de ce que tu peux. Tu dois être plutôt à 105%, quoi. Quand on voit l'intensité même de... C'est pour ça qu'on joue à 4 blocs, hein, maintenant, parce qu'à 3 blocs, tu tiens plus l'intensité d'un match. Voilà.
Sorensen validé, à qui le tour ?
La deuxième saison, c'est la bonne, Jacob Delarose.
Ouais, alors moi, je vais être honnête avec vous, les gars, j'aimais déjà bien ce mec l'année passée. Je pense que malheureusement, Delarose, pour être bon, il faut que les attaquants offensifs soient bons. Et Jacob Delarose fait exactement ce qu'il faisait l'année passée. Il va au but, il embête les gardiens adverses, les joueurs adverses. Moi, je pense qu'il a payé pour les mauvais résultats de Fribourg, surtout en fin de saison. Mais moi, si je dois en choisir... trois joueurs à Fribourg-Gotteron pour aller en play-off pour gagner le titre, Jacob Delarose, il fait partie d'un de mes trois choix. Parce que je sais, par expérience, que c'est avec des mecs comme ça que tu vas jusqu'au bout. Tu es obligé d'avoir aussi, l'année passée, on peut parler d'Artikanen, on peut parler de Tom Ernest à Lugano, mais si tu... Genève, pardonnez-moi. Je veux dire, tu te rends compte que chaque année, l'équipe qui va au bout... Il y a deux, trois joueurs de entre parenthèses, second plan, j'aime pas dire ça, qui font que cette équipe gagne. Et moi, Jacob Delarose, il est meilleur que l'année passée pour beaucoup de monde, dont moi, mais du fait aussi que Jacob Delarose, on ne doit pas attendre de lui qu'il nous marque 15 ou 20 goals par saison. Il va peut-être le faire une fois, mais j'attends pas ça de lui parce qu'il y a d'autres qui sont là pour marquer. Lui, il est plus là pour amener du côté physique, impact devant la cage. On peut parler de Brodin il y a quelques années en arrière. Alors oui, il a fait la première saison, je crois qu'il avait marqué 16 cacahuètes. Puis tout le monde est resté fixé là-dessus, mais le mec, moi, ce qui m'intéressait plus, c'était son intensité. Même quand Fribourg perdait 5 buts, le mec, il restait 3 minutes, il mettait tout son cœur sur la glace. Et ça, je trouve, bon, on parlait de leader naturel, ça, c'est des leaders naturels. Toi, Jacob Delarose, c'est pas le mec qui va te marquer 20 goals, mais pour moi, c'est un leader naturel, quoi, par l'exemple.
Moi, je faisais pas partie des grands fans de Delarose l'année passée. Je trouvais qu'il était un petit peu en dedans. Je me demandais aussi si l'arrivée de Rask assez rapidement, qui représentait voilà, une concurrence pour lui, il avait pas aussi un petit peu inhibé. Il avait pas du tout l'abattage qu'il a aujourd'hui. Alors qu'on voyait que voilà, physiquement, ça pouvait être un bon joueur capable de mettre des buts. Il a eu sa période dorée au mois de janvier, juste après l'équipe nationale à Fribourg avec la Suède, mmh. où il avait mis, je crois, la moitié de ses points en 6 matchs, quelque chose comme ça. Donc là, on avait vu que ça pouvait être un joueur très, très intéressant. J'ai l'impression que cette année, ce qui lui va bien, c'est qu'on lui a trouvé une ligne qui met vraiment en valeur son profil. Il y a Di Domenico, il y a Berti des deux côtés. C'est deux joueurs qui, à la base, peuvent jouer au centre. C'est deux créateurs. Donc, il n'a pas cette pression de devoir faire le jeu, ce qui, à mon avis, il sait moins bien faire que d'autres centres étrangers de ce pays. Donc, il peut laisser cette responsabilité à ses deux ailiers, tout en leur faisant profiter de son poids, de son poids.
Sa présence physique.
Sa présence physique et de sa présence dans les bandes et puis devant le but. Et en fait, il match parfaitement avec cette ligne. Et c'est aussi pour ça qu'il est beaucoup plus à l'aise. Il a pris confiance. Et on voit aussi dans son... Tu parlais de body language aussi. Je trouve que c'est pas le même homme. Et c'est pour moi une des plus belles évolutions entre l'année passée et cette année. C'est Jacob de la Rose. Et il fait vraiment un grand bien à cette équipe. Et je suis d'accord avec toi. Je cocherai aussi son nom tout début pour prendre ne serait-ce que 3 personnes en play-off.
On continue ce petit jeu. La deuxième saison, c'est la bonne pour Christophe Berti. Alors, c'est pas sa deuxième saison en Suisse, mais c'est la deuxième sous les couleurs de Fribourg-Gotteron. Moi, je l'ai trouvé très bon la saison passée, mais là, ce début de saison, il a été irrésistible.
Ouais, c'est un joueur multitâche. Moi, je dirais que c'est un peu un joueur couteau suisse. Le bon exemple du mec qui sait un peu tout faire. Il a un patinage en dessus de la moyenne. Il shoot très, très bien. Physiquement, malgré qu'il ne fait pas 1m90, il n'a pas peur d'aller au contact.
Ouais, il en met quelques-unes.
À la limite, certaines fois, mais ma foi, écoute, moi ça passe. Donc je préfère des joueurs qui en font un peu trop que pas assez.
Si les late checks étaient encore sanctionnés, il serait souvent sur le banc. Parce que c'est la définition du joueur qui finit ses charges.
Voilà, mais je veux dire, pour le moment, je vais être honnête avec vous. Je pense qu'au niveau des buts, il a un peu surperformé. Je ne pense pas que ça va continuer comme ça, mais ça ne me pose pas de problème parce que. Je pense pas parce qu'il marquera moins de goals que le jeu de Berti va être moins important pour Fribourg-Gotteron. Comme je l'ai dit, le danger peut venir de beaucoup de joueurs du côté de Fribourg-Gotteron. On peut parler d'un Kylian Motet. Alors peut-être que Berti marquera un peu moins de goals, mais Spunger en marquera un peu plus et puis Kylian Motet commencera aussi d'en mettre. Donc c'est ça la grande force de Fribourg, c'est que si tout d'un coup tu as un ou deux leaders qui marchent un peu moins bien, tu en as des autres derrière, leaders offensifs qui peuvent marquer des goals. Et moi, ça ne me posera aucun problème si Berti marque un peu moins de goals ou fait un peu moins de points, parce qu'il y en a bien assez des autres. Mais c'est une belle acquisition pour Fribourg-Gotteron. J'aime bien son attitude. C'est un bon client aussi aux interviews. Hein. Faut pas se le cacher. Je pense que Pierre, tu peux valider. Il a pas peur de dire ce qu'il pense. Moi, j'aime bien. Donc voilà quoi. Et c'est un mec aussi qui montre l'exemple. Tu le regardes jouer. Ben, il est partout quoi. Il est partout. C'est pas qu'il attend devant la cage avec la canne en l'air que le puck arrive. Quand il faut aller gratter des pucks, il y va. Un petit peu comme un Chris Domenico. On parlait aussi. Il faut pas oublier leur vitesse quoi. Les deux ont beaucoup de vitesse. Donc de la Rose, ben un peu moins de vitesse. Donc il les laisse un petit peu manager dans les bandes. Bien sûr qu'il vient les aider quand il arrive. Quand on force maintenant parce que on force énormément les défenses adverses par rapport à quelques années en arrière. Et leur vitesse plus leur force, leur caractère fait que c'est des gens qui sont énormément dangereux pour les équipes adverses quoi.
C'est le futur capitaine de Gotteron à mon avis. J'ai eu la chance l'autre jour de voir un match juste derrière le but, derrière le banc des joueurs pardon. Et puis je trouve que vraiment sur le banc c'est un peu le leader naturel. Ouais. Il arrive, il tape dans les gants de tout le monde. Il dégage aussi un truc où tu vois que c'est le boss en devenir ou même déjà le boss. Donc il y a ce côté-là très important de leadership qu'il a. Et il fait un début de saison de feu. Après, ça a toujours été ce genre de joueur. Berti, en termes de points d'impact offensif, il a des cycles. Quoi. Il est capable de surperformer sur 5-6 matchs. Après, ce sera 5-6 matchs où ce sera plus compliqué. Mais je suis d'accord avec toi, il amène toujours cette énergie. Donc il a au moins de la régularité dans l'effort, mais oui, on a un Berti quand même qui est monté en gamme depuis le début de la saison, ça on peut pas le nier.
On continue, quatrième et dernier attaquant, la deuxième saison c'est la bonne pour Lucas Wallmark. Il a eu sa saison d'adaptation en Suisse à Zurich l'an passé. Il est très bon avec Fribourg désormais, est-ce que tu partages cet avis Geoffrey?
Aucune surprise pour moi, aucune surprise, c'est un joueur en fait, moi en tant qu'ancien joueur j'aurais adoré jouer avec lui. Comme j'aurais adoré jouer avec un Desharnais.
Tu crois que tu aurais joué avec lui?
Je sais pas, écoute, j'ai joué avec des étrangers quand même, mais voilà, je veux dire, après, il bonifie tous ceux qui sont autour de lui, en fait, si tu regardes bien, parce qu'il voit extrêmement bien le jeu, il est malin, c'est un vrai renard des surfaces, hein. Puis la surface, pour moi, c'est toute la patinoire pour lui, parce que je trouve qu'il est, voilà, c'est un mec, moi, avant qu'il arrive à Zurich, j'en entendais déjà parler. Je pense qu'à Zurich, ça n'a pas marché parce qu'il a payé comme d'habitude. Ben voilà, si ça va un peu moins bien puis que le système ne te plaît pas, ben automatiquement,
ouais, le changement de coach.
Le changement de coach, le système, tout ça. Parce qu'un joueur maintenant, pour être bon, par rapport à 10 ou 20 ans en arrière, il est bon seulement si ceux qui jouent avec lui sont bons et puis si le système va dans son sens. Et ben ça, c'est un exemple typique d'un gars qui a fait une saison couchiche-couchache à Zurich et puis à Fribourg. Excellent. Moi, je suis pas surpris. Franchement, je l'ai dit au Pocalis. J'ai dit, écoutez, lui, on nous parle beaucoup de Chris Dominico, mais j'ai dit, ok, d'accord, Chris, voilà. Mais vous allez voir Walmark, ça sera un super renfort. Et c'est le cas, quoi.
C'est un peu un Dernier 2.0.
Oui, exactement.
Il partage beaucoup de qualités. J'avais pas vraiment eu l'occasion de l'observer de près quand il était à Zurich, parce que voilà, on voit tous les matchs de Gauthieron, donc on voit Zurich allez, 2, 3, 4 fois par saison maximum. Mais je m'attendais à un gars plus flamboyant, et finalement, en fait, il me fait beaucoup penser à Dernier, quand même discret, bon passeur. Qui soigne énormément de choses, qui fait beaucoup de petits gestes qui permettent de récupérer un puck, d'être très consciencieux. J'aime aussi beaucoup le profil. Et puis, c'est vrai que Walmark, quand il a signé à Zurich, tout le monde s'est dit « Oh, mais magnifique, ouais. quel gros coup incroyable, il vient dans le championnat de Suisse. » Il a fait une saison un peu moyenne à Zurich, il est arrivé à Fribourg, et puis là, la tendance, on entendait, c'était plutôt « Ouais, Walmark, l'année passée à Zurich, c'était pas terrible. » Alors que voilà, ça reste quand même une grosse, grosse pointure de ce championnat.
Moi, en fait, mon seul bémol avec lui par rapport à Dernier, c'est le côté physique. Dernier était quand même quelqu'un qui n'avait pas peur de se frotter, hein, je veux dire.
Hargneux.
Il était hargneux, il ne se laissait pas faire par les équipes adverses. Et il me tarde de voir Walmark en play-off, parce que, c'est, à mon avis, ça sera ça le gros test. Parce que là, on sait que le niveau côté physique augmente, hein, je veux dire. Et Dernier s'en sortait toujours encore même mieux en play-off. Je trouvais qu'il était encore meilleur en play-off qu'en championnat régulier. Et la comparaison sera intéressante en play-off. On en est encore loin, bien sûr.
Il s'en rapproche voilà. De match en match, quoi.
Et enfin, une fois n'est pas coutume, la première saison, c'est la bonne. Andreas Borgmann, meilleur défenseur offensif de la Ligue avec 13 points en 14 matchs, qui forme une ligne défensive excellente avec Raphaël Diaz.
Ouais, alors automatiquement, je dirais que le bon fonctionnement des attaquants aide au bon fonctionnement des défenseurs. Moi, je ne doutais pas de ses qualités de défenseur défensif. Je doutais un petit peu de ses qualités offensives et franchement il s'en sort bien. Moi j'ai trouvé qu'il a pris confiance au fil des matchs. Je trouvais que les 2-3 premiers matchs c'était un peu plus compliqué, à l'image de l'équipe un petit peu, un peu plus dans la défensive, une ou deux mauvaises relances et puis tu voyais après qu'il restait plutôt sur les talons, mais j'ai trouvé qu'il a pris une immense confiance en lui. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que souvent nous on a la mauvaise idée, chaque fois qu'on signe un étranger à Fribourg ou ailleurs, on part tous du principe que c'est des champions offensifs, quoi. Et des fois les mecs quand ils jouent en Suède ou en Finlande ou en Russie avant, c'était pas forcément des mecs qui jouaient sur l'offensive. Et des fois c'est pour ça qu'il y a certains étrangers qui arrivent ici et ça ne marche pas, parce que en fait parce que c'est pas des joueurs qui ont une petite touche offensive, c'est des joueurs qui ont une touche plutôt défensive. Et lui par contre, à mon avis, s'est découvert un peu plus d'offensive que ce qu'il pensait. Il a des qualités, il joue simple et ça c'est très important, parce que pour que ça marche, un bon défenseur, c'est déjà un défenseur qui fait une bonne première passe. Et sa première passe, elle est excellente. Donc, que ça soit à 5 contre 5 ou en powerplay, que tu fais déjà la bonne passe pour la sortie de zone, ça te permet d'aller de l'autre côté de la patinoire et puis de jouer sur le powerplay. Donc, et là, ben, il a l'intelligence de donner le puck à ceux qui savent où mettre le puck dans le but. Après, il a aussi marqué, lui des goals, hein, si je ne dis pas de bêtises.
3.
Ouais. Donc, voilà. Mais moi, je trouve qu'il apporte par... pas seulement offensivement, mais défensivement, par son calme, sa précision. Mais comme j'ai dit avant, il y a quand même tous les défenseurs, pour moi, qui font un sacré boulot cette année à Fribourg-Gotteron.
Je suis d'accord avec toi. Quand tu dis qu'il lui a fallu un petit peu de temps pour se mettre en place, j'étais relativement critique avec lui, alors en sachant qu'il y avait une période d'adaptation et tout. Mais je l'ai vu plusieurs fois en préparation, il m'a pas
c'était plus dur en préparation, ouais.
Et c'est vrai que le premier match c'était compliqué, c'était contre Lausanne, et il y a le premier tiers contre Davos, j'y étais, c'était une catastrophe vraiment. Si une fois vous avez l'occasion de re-regarder ce premier tiers pour mesurer
non,
à quel point
on va pas se faire mal quand même,
mais il était à côté de ses patins, et voilà, on a tendance peut-être à faire des bilans un peu trop, mais je me parlais de bilan, mais je me disais ça pourrait être compliqué pour lui. Et après, durant le match de Davos, ça allait un petit peu mieux. Je crois qu'il marque au troisième match contre Lugano, il l'égalise si je me trompe pas.
T'as une meilleure mémoire que nous.
Et à partir de là, ça a tourné. Et oui, il est excellentissime, je trouve, dans sa manière de jouer. Comme tu dis, il prend peu de risques. Il a une bonne première passe. Il me fait un peu penser à Jonas Ljungland, un peu, si vous vous rappelez de lui, dans sa manière de jouer, un peu courbé en avant. Il fait la même feinte.
Alors, Ljungland, défensivement, c'était pas le champion. Hein.
Ouais, mais après Borgman, il faudra voir aussi sur la longueur. Là, c'est vrai qu'il est bien aidé par Diaz, qui fait aussi un très bon début de championnat. Moi, je m'attendais plutôt à avoir un joueur offensivement à l'aise, et je me posais des questions par rapport à ses capacités défensives. Mais après, voilà, c'est un joueur, honnêtement, que moi, j'avais jamais vu jouer avant.
Alors, voilà, c'est...
Donc, on se base un peu sur ses stats, sur ce qu'on a pu lire, entendre. Mais je crois que son club était quand même assez triste de le perdre. Donc, ça prouve quand même...
Ça se comprend.
Son club, c'était pas n'importe lequel en Suède. Donc, ouais. C'est non, une vraie plus-value quand on sait que l'année passée, il y avait Youssou Vainio, qui n'était pas un mauvais joueur. Hein. Là, on a tendance un peu à faire du Vainio bashing, mais qui défensivement était très solide. Mais il amenait rien, en fait.
Et surtout... qu'il n'était pas offensif, ça, moi, c'était pas une nouvelle, mais je trouvais qu'il n'était pas grand physiquement, donc il se faisait un petit peu manger par les tu vois, tu avais un Artikainen en face, je veux dire, c'est...
Mais qui ne se fait pas manger par Artikainen.
Ouais, voilà, je veux dire...
Toute la ligue.
Mais je veux dire, tu voyais que physiquement, automatiquement, c'était pas forcément facile pour Vuano. J'arrive jamais à prononcer son nom.
Tout le monde va l'oublier.
Ouais, voilà, donc... c'était un pari... C'était un pari, à mon avis, qui n'était pas très cher de la part de Fribourg-Oteron. Ce n'était pas un immense contrat. Ça n'a pas marché. Mais voilà, et qui ne fait pas d'erreur, quoi. Honnêtement, personne.
C'est bien dit.
Pas même Christian Dubé.
Gérama vous offre toutes les prestations dans le domaine de l'immobilier. Gérance d'immeubles, administration de copropriété, courtage et expertise. Confiance et transparence, nous sommes le partenaire que vous recherchez. Retrouvez toutes nos offres sur gerama.ch.
On va passer à la dernière partie de cette émission qu'on pourrait nommer « À quel point Fribourg est-il en train de surperformer ?» Donc là, on va se demander un petit peu si effectivement Fribourg est en train de surperformer, à quel point. Et on va aussi lister les points d'amélioration, parce que tout va très bien pour Fribourg-Oteron, mais certainement qu'il y a encore des choses à améliorer. On va peut-être commencer par les statistiques avancées. Pierre, tu en es un spécialiste.
Pas du tout. Je connais.
J'ai eu peur.
J'ai deux, trois notions. Ouais. Mais oui, mais on se base souvent sur le PDO, que je trouve assez parlant, en fait. C'est quand on additionne le taux de réussite d'une équipe devant le but, donc le taux de tir transformé, et puis le taux de sauvetage des gardiens ou d'un gardien. Et puis, si c'est autour des 100%, c'est qu'on est dans une certaine normalité.
En moyenne, en dessous de
101, si je ne me trompe pas, je n'ai pas regardé, mais c'est qu'on est plutôt en surperformance. Et là, donc Fribourg a des gardiens à environ 94%. Ils sont à 13% d'efficacité devant le but, donc ils sont à 107. Ce qui sont des chiffres intenables sur la longueur. Donc clairement, il y a une surperformance. Je crois que tout le monde en est conscient. Le staff en est conscient. Christian Dubé l'a même dit. On est en train de surperformer. Parce que voilà, les gardiens ne vont pas avoir 94% d'arrêt toute la saison. Ils ne vont pas transformer plus d'un tir sur 10 toute la saison, tous les matchs. Donc forcément, à un moment donné, il y a l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, qui vont caler, et ça sera plus compliqué. Donc oui, Fribourg, en tout cas en termes de chiffres, je crois qu'il n'y a pas de secret. C'est clairement un état de grâce collectif.
En fait, moi je sais qu'on a des fans de ces statistiques avancées, alors moi de temps en temps je regarde les statistiques, mais je dois dire que j'aime bien avoir toujours mon regard d'ancien joueur, et rien qu'en regardant Fribourg, tu vois que tourne pour eux, en fait. Tu regardes, on parlait de Sørensen, l'autre jour, il shoot poignée au premier poteau, quand même, à quelques mètres, ça rentre. Tu te dis, ouais, normalement, ça devrait pas rentrer. Alors, ouais. est-ce que le gardien était pas là? Maintenant, le gardien était là, mais il a pas vu le shoot à un quart de seconde, tout ça. Donc, tu te rends compte que, comme tu l'as bien dit avant, à Rapperswil, ils ont pas si bien joué que ça, mais ils gagnent. Il y a tout qui va dans le bon sens. Et ça, je pense que c'est bien que Christian Dubé, puis je pense que les joueurs sont pas stupides non plus, te rendent compte que ça va pas durer comme ça. Et c'est dans les moments compliqués, on parlait de leader avant, que tu te rends compte de qui est vraiment un leader dans une équipe. Et moi, je pense qu'effectivement, Fribourg, ça va aller un petit peu moins bien, mais c'est pas une mauvaise chose. Il faut quand même, pour aller jusqu'au bout, hein, parce que moi je le dis clairement, Fribourg, il faut qu'ils aient envie d'aller jusqu'au bout, qu'ils aient même pas peur de le dire, non, on va aller au bout, voilà. C'est bien de manger un petit peu son pain noir pendant la saison pour ça te rappelle les choses de base que tu dois faire pour aller jusqu'au bout. Et si tu regardes bien, Genève, à un moment l'année passée, juste avant la fin du championnat, a pas été terrible. Hein. Ils se sont fait rattraper par Bienne, ça s'est joué à pas grand-chose. Et ça leur a permis aussi d'avoir la grinta pour les play-offs, quoi. Les play-offs. Donc, voilà, on peut penser que c'est une mauvaise chose d'avoir un petit peu une baisse de régime, mais ça fait toujours du bien, une petite piqûre de rappel, ou plutôt, comme on dit, un petit coup de pied au cul une fois de temps en temps. Quoi.
En parlant de surperformance, il y en a aussi à l'entraînement, et c'est flagrant, j'étais ce matin... Un tir sur deux finissait au fond, et puis c'était pas des Retaillons, c'est des lucarnes, ça tape la latte et tout. Mauro Dufner qui arrive seul, qui la met entre les jambes en back-end. Non, c'est incroyable la réussite actuelle. Et puis ben voilà, il transpire la confiance, et puis il suffit de deux, trois défaites pour que finalement le cercle vertueux se transforme un peu en cercle beaucoup moins vertueux.
Tu parles de l'entraînement, de l'ambiance qui forcément est bonne. Pour avoir discuté quand même avec plusieurs joueurs, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'euphorie. Par contre, malgré l'excellent début de saison, on reste vraiment calme, tant au niveau de Dubé que des joueurs. T'as aussi ressenti ça?
C'est l'avantage, je pense, d'avoir une équipe de vétérans, une équipe expérimentée.
Comme les mecs se souviennent. Souviennent de ce qui s'est passé l'année passée, ce qui s'est passé il y a deux ans aussi. Je veux dire, en deux ans, Fribourg a fait une super saison, puis en play-off, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que tu dois apprendre, en fait, t'apprends beaucoup plus dans la défaite que dans la victoire. Vous allez me dire, ouais, mais il y a tout le monde, tous les sportifs nous rabâchent ça. Mais c'est vrai, en fait, pour gagner, tu dois perdre. En fait. Et Fribourg, je pense que, comme vous l'avez bien dit, il y a de l'expérience dans cette équipe. On chasse quand même le titre depuis quelques années, hein, je veux dire, comme d'autres équipes, mais tu apprends, en fait. Il n'y a pas de miracle. Si tu vas avec les meilleurs joueurs du monde, mais qu'ils ont tous 20 ans, je te parie que tu ne vas pas aller au bout, parce que dans les moments compliqués, on ne sera pas capable de réaliser, de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit changer. Et ça, c'est aussi la même chose pour des coachs. Hein. Pour des coachs.
Vivement les prochaines défaites. Donc,
Moi j'aime bien ça, parce que j'aime bien voir qu'est-ce qui se passe, comment on réagit, qui se comporte, comment on parle aussi à un micro. C'est toujours intéressant quand t'as des défaites. Je veux dire, tu vois l'interview l'année passée, alors ça n'a rien à voir avec Fribourg-Gotteron, du coach de Zug, Tangnes, quand ils ont perdu contre Genève en playoff, tu vois l'interview du mec, tu dis, mais le mec, chapeau, il dit, écoutez, on méritait pas d'aller plus loin. On a fait de l'ascenseur toute la saison, on s'est cherché toute la saison, on peut pas arriver comme ça contre une équipe contre Genève. Ils ont mérité, nous on méritait pas, maintenant on va analyser, puis on va reconstruire pour l'année prochaine. C'est juste, c'est pas qu'il a dit c'est de la faute des arbitres, qu'il a critiqué personnellement un joueur, qu'il s'est remis aussi. Quand il dit pas l'équipe, il dit nous. Déjà ça, moi ça me donne une information sur le bonhomme, quoi. Quand il dit nous, on a fait de la graille toute la saison, alors ils n'avaient pas été si mauvais que ça, mais ils étaient moins bons que ce qu'on avait vu les autres années. Et ça, j'aime bien, parce que c'est dans les moments difficiles qu'on voit qui on a en face de nous, tout simplement.
Et on verra si Di Domenico, qui a plus pris la moindre pénalité depuis 11 matchs,
c'est un bon exemple,
saura se tenir à carreau quand les vents seront contraires.
Excellent exemple. Il y a tout le monde qui dit, ah, il a changé. Non, il n'a pas changé. C'est que tout va bien maintenant. Chris Di Domenico, moi je l'adore. Hein, je veux dire, clairinette, moi je le prends tout de suite dans mon équipe. Il fait partie des trois dans mon équipe que je prends.
De playoff
Playoff. Mais je pense que je le prendrai quand même. Il est obligé de prendre des risques. Il est obligé d'avoir des joueurs comme ça. Mais lui, ça serait intéressant de voir quand ça va moins bien. Parce qu'on sait qu'il déteste perdre. Et puis que s'il y a encore un joueur de l'équipe adverse qui le chauffe à chaque fois, c'est compliqué. Mais lui, intéressant. En tout cas, il y a des beaux sujets à Fribourg-Gotteron, c'est le moins qu'on puisse dire.
On s'embête pas.
Il y aura des papiers à écrire, hein, Pierre.
On a déjà fait les kills.
Et alors, tu parles des trois joueurs que tu prendrais pour aller en play-off. De la Rose, Dido, on a envie de savoir qui est le troisième.
Je prendrais Béra.
Ouais, c'est peut-être mieux d'avoir un gardien.
Ouais, quand même. Ouais, ouais, mais parce qu'à mon avis, Béra, si tu réfléchis bien. Alors, on nous parle beaucoup d'autres gardiens, mais moi, je veux dire, c'est régulier. Chaque année, il est bon. Il impose. J'aime bien son calme, le respect, tout ça, son expérience. Ouais, voilà, quoi, je veux dire.
Son expérience en play-off est. La force des choses, très limitée.
Oui, très limitée.
Par rapport à son ami Jelani qui a gagné 7 titres, je ne sais pas si Béra a gagné 7 matchs en play-off. Non, j'exagère.
Par contre, si tu mets Béra dans les choix d'équipe de Jelani, c'est-à-dire que si tu mets les années où Jelani était à Berne, tu mets Béra, moi, à mon avis, je pense que ça ne change pas grand-chose pour Berne. Il gagne le titre, la même chose. Si tu mets Béra les deux années où Zug a gagné le titre, je pense que Zug gagne aussi le titre. Je pense que Béra et Jelani, un ou l'autre, c'est les deux meilleurs gardiens suisses actuellement. Alors bien sûr que ça, ils prennent de l'âge, on voit que ça va peut-être un peu plus compliqué. Je trouve surtout Jelani, mais je pense que Jelani l'année passée a beaucoup payé du fait de son équipe était vraiment déséquilibrée, quoi.
On rappelle que Jelani et Béra ont gagné un titre ensemble.
À Davos.
C'était il y a longtemps. Un petit mot encore sur les étrangers et cette stat assez intéressante que j'ai trouvée. 55,5% des buts sont marqués par des joueurs étrangers à Fribourg. Ça en fait la deuxième équipe la plus dépendante, si on peut dire ça comme ça, de Suisse. Alors Langnau est bien devant, on sait que Langnau est extrêmement dépendant des étrangers. Fribourg est deuxième, qu'est-ce que ça vous inspire ce chiffre?
Bah, ça peut être positif comme ça peut être négatif, mais je veux dire, maintenant on jouait quand même avec 6 étrangers. Si tu m'avais dit ça avec 4 étrangers, là je me serais fait un peu du souci. Mais il faut pas oublier que tes 6 étrangers généralement, surtout cette année à Fribourg, ils jouent tous le powerplay. Donc voilà, sur 5 joueurs de champ qui jouent le powerplay, t'en as déjà 6 qui sont des étrangers. Quand tu sais le pourcentage de buts, de points en powerplay, c'est pas vraiment étonnant. Mais comme je l'ai dit avant, ça me dérange pas si les étrangers de Fribourg scorent un peu moins, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent scorer à Fribourg-Gotteron, ce qui n'est pas le cas à Langnau. On voit qu'à Ajoie, ben, les étrangers, c'est un peu compliqué, mais on voit les résultats. Ils n'ont pas les mêmes joueurs suisses à Langnau. À Langnau, hein, je prononce un petit peu la jurassienne, je m'excuse.
On aime bien.
Ouais. Ma femme, terroir, qui est fribourgeoise, me dit « Ouais, mais les jurassiens, vous avez de l'accent. » Je m'excuse. Hein. J'ai dit « Mais des fois, là, Fribourg, il y en a quelques-uns, c'est aussi un beau petit accent. Puis on va être fiers de ça. » Donc voilà, donc ça ne me fait pas vraiment souci, parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça va quand même un petit peu s'équilibrer. Il y a des méformes qui peuvent arriver, des blessures. Fribourg, au niveau des blessures, à part Souter cette année, c'est pas catastrophique, hein, quand tu vois les autres équipes.
Ça fait des années
Bien.
qui sont épargnées.
Voilà, exactement. Pose la question à Bien actuellement. Depuis le début de saison, c'est très compliqué. Puis on voit que les résultats suivent pas forcément. Mais voilà, je veux dire, maintenant, une équipe, c'est 25 joueurs pour moi. Tant mieux si les étrangers marchent. Mais s'ils marchent un peu moins, aux autres de prendre un petit peu les devants. Quoi.
On en arrive à la marge de progression finalement. Où est-ce que Gotteron peut progresser? C'est peut-être au niveau de la production de ces joueurs suisses. Parce que ben voilà, Julien Sprunger, ça va mieux depuis quelques matchs. 3 buts en 4.
Depuis qu'Alain Birbaum l'a relancé à Ajoie. Ouais, salut Alain, on te salue.
son ancien coéquipier, juste avant son 1000e match. Ouais. Sympa.
On appelle ça une livraison de pizza, si jamais, dans le monde du hockey.
c'était une 4 fromage. Ouais. Donc il y a Julien Sprunger qui revient un petit peu, mais il a que 4 buts. Sandro Schmidt, je crois que c'est 2, je dirais, de tête. Mm-hmm. Kylian Motta, bon, là on en a parlé, il a aussi marqué 1 ou 2 buts. Il y a Berchi qui monte un petit peu cette statistique avec son excellent début de championnat. Diaz qui était le joueur à la ligne bleue sur le deuxième power play. Mm-hmm. Qui voilà, a beaucoup moins de temps de jeu en jeu de puissance, donc il marque moins. Donc il y a certainement une marge de progression à ce niveau-là. Et je pense que voilà, ça commence. C'est un premier élément de réponse par rapport à la question que tu te posais, Jonas.
Geoffrey, ton avis, dans quoi Fribourg peut-il encore progresser?
Écoute, moi je trouve que Fribourg marche bien, mais c'est vrai que moi je pense que ça serait intéressant de voir quand justement il y aura des blessés, un peu de méforme, voir qui c'est qui va aller un petit peu de l'avant. Mais je me fais pas de soucis, parce qu'il y a quand même un peu. La profondeur, oui et non, mais au niveau du talent, de la profondeur de talent, quand tu vois des quatrièmes blocs avec des Valzer, des choses comme ça, qui marquent aussi de temps en temps des goals. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans en arrière, quand Fribourg marchait très bien, il y a 2 ans en arrière, le quatrième bloc, ou c'était plutôt le troisième bloc à ce moment-là, Valzer, Jorg, et puis avec qui
Marchand.
Marchand.
Au début, après, ouais. Il était passé en première ligue.
Exactement.
Et Rossi.
Voilà, Rossi avait marqué énormément de goals. Et il n'y a pas de miracle. Pour aller jusqu'au bout, tu as besoin d'un 3-4e bloc qui marche. Tu peux poser la question à Genève la saison passée. Si Bertadja ne marque pas et puis Pouliot ne marque pas au bon moment, des buts super importants, je ne suis pas sûr que Genève soit champion suisse. Quoi.
Après, voilà, tu parlais des blessures. Il n'y a pas la profondeur à Fribourg qu'il y a dans d'autres clubs. S'il devait y avoir 2-3 tuiles qui tombent sur la tête de Christian Dubé, ça pourrait vite devenir compliqué. Il n'y a pas de marge.
Alors peut-être il est là le truc. Alors là, on voit un peu plus loin que l'équipe, c'est la formation. Tu vois des équipes comme Zurich. Alors bien sûr, on parle d'un autre niveau, au niveau de l'agglomération de Zurich, au niveau du nombre de joueurs. Mais tu regardes Zurich cette année, tu vois le nombre de jeunes qui réussissent à intégrer, des jeunes de 20, 21 ans, 22 ans, ils perdent un gardien qui se blesse, tu dis mais ils vont jouer avec qui comme deuxième gardien, ils ramènent Tsumbul là, que personne n'en a jamais entendu parler. Alors bien sûr, les suiveurs de Getse peut-être, mais nous un petit peu moins.
Les 39 suiveurs de Getse.
Exactement, et le mec il vient, il joue, et Zurich n'est pas ridicule, il fait des gros arrêts, et moi c'est peut-être un petit peu la chose que je reproche à Fribourg, c'est que je me dis ok, il y a eu Sandro Schmidt il y a quelques années en arrière, alors qu'on a ramené de Suède, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais un jeune voilà, qu'on a fait rentrer dans le contingent, qui a progressé d'année en année, on a fait revenir le défenseur, le jeune défenseur
Strelet,
qui me semble pas mal aussi, mais si tu veux, il faudra bien un moment ou un autre qu'on commence un petit peu à faire rentrer d'autres jeunes, parce que ben, Fribourg-Gotteron, quand tu vois les 3-4e blocs, il y a quand même des joueurs qui ont un certain âge, il faudra régénérer un petit peu tout ça, et ça c'est un travail, alors pas sur cette année, je dirais plutôt sur 4-5 ans, parce que les autres clubs le font, il faudra bien que Fribourg le fasse aussi, ouais. Et ça c'est un boulot pas facile, parce qu'il y a une réelle concurrence maintenant dans le recrutement des jeunes entre clubs, parce que les clubs sont pas stupides, hein. Ils savent bien qu'un jeune joueur que tu peux faire jouer chez toi 2-3 ans avant qu'ils prennent de la valeur, ça te fait économiser de l'argent pour mettre sur des gros joueurs. Et ça, Fribourg, c'est peut-être le plus gros défi qu'ils ont ces prochaines années.
Je trouve que la gestion des jeunes cette saison, bah les jeunes, il y a Bignas, il y a Strelet. Ouais.
On n'en a pas parlé, il est pas mal Bignas, je trouve que...
Il a surtout un rôle de joueur qui amène de l'énergie en quatrième ligne, qui à la base ne colle pas vraiment à son profil, mais je trouve qu'il s'est bien adapté.
Oui.
Il a joué un petit moment sur le power play, il va peut-être continuer, je sais pas si Motet va réintégrer, on pourrait penser que oui, mais j'ai pas trop souvenir d'avoir vu toucher le puck en power play. J'ai l'impression que les Suédois ils jouaient un petit peu entre eux et puis
ils faisaient du 4 contre 4, je veux dire.
Bignas, il était là pour filmer la séquence pour l'analyse après, non j'exagère, mais voilà, il était peut-être pas forcément intégré ou peut-être qu'on lui faisait un peu moins facilement la passe qu'à d'autres, mais voilà, on a donné une chance à Bignas, il est en 4e ligne, il a 7-8 minutes par match, il a eu un petit peu de powerplay, là peut-être qu'il en aura plus, mais voilà, on a essayé un petit peu. Strelet, il a pris cette pénalité contre Lugano, ouais, c'était une erreur, de jeunesse,
voilà.
On n'a pas attendu trop longtemps avant de le relancer, alors il y a eu la blessure de Souter sans doute qui a aidé, mais on leur donne quand même un petit quelque chose, peu à peu, toujours un petit peu plus.
C'est juste.
Et j'espère que ça va continuer dans cette direction. Est-ce que c'est aussi une résultante de la présence de Patémon qui a toujours aimé travailler avec les jeunes, qui essaye d'amener un petit peu ces inputs-là, peut-être?
Le fait aussi de gagner, tu peux te permettre plus facilement de mettre des jeunes qui font des erreurs, et ça c'est normal sur la glace quand ça va bien. Si tu regardes quand ça va mal, les coachs et les équipes reviennent toujours aux anciens systèmes, aux joueurs qu'on fait que l'équipe marchait, et on parle de Lausanne qui a bien commencé et puis après ça a été un peu plus compliqué. On avait le jeu de Rochette qui jouait dans le deuxième bloc au début du championnat, puis tout d'un coup on a un petit peu, pas paniqué, mais on est revenu à la fameuse ligne qui a marché ces 2-3 dernières années à Lausanne, Fuchs, Ria et puis Sekac, et ça c'est souvent propre à beaucoup d'équipes quand ça va moins bien. Ben on met sur la glace ce qui marchait dans le temps, quoi. Et Fribourg actuellement en marche, et je trouve que c'est très bien, chapeau à Dubé, de mettre un Bignas, comme tu l'as dit, même sur le powerplay, même si ça peut peut-être un petit peu pénaliser ton powerplay, parce qu'automatiquement le jeune il tremble un peu plus quand il est sur la glace sur le powerplay, mais ça c'est aussi un rôle des autres joueurs d'un petit peu l'encourager, de le mettre en confiance, et ça c'est pour moi, ben je l'ai dit, je pense que c'est un petit peu l'avenir aussi de Fribourg-Gotteron, faire un petit peu ce que des Berne aussi, intégrer pas mal de jeunes, parce qu'ils n'avaient peut-être pas forcément le choix. Il y a quelques années, Genève l'a fait.
Pas longtemps,
mais ben c'est toujours la même chose. Quand tu veux gagner des titres, ben tu mets sur la glace ce que tu penses qui va te faire gagner un titre. Mais moi, j'aime assez bien Bignas. Je trouve que on l'annonçait comme un buteur, mais je trouve qu'il a réussi à s'adapter par rapport à ce qu'on lui donnait sur la glace, parce que tu peux pas arriver à Fribourg-Gotteron, dire écoutez, poussez-vous, moi je suis buteur, hein, si jamais j'ai marqué 30 goals à Turgovie, puis les gars, les vieux, ils vont dire tout de suite, t'es pas à Turgovie, hein, déjà, première chose.
Ouais, t'as pas marqué 30 buts.
T'as pas marqué 30 buts, donc voilà. Et ça, il y a pas de miracle. Si tu veux avoir une place maintenant en National League, t'es obligé d'être un caméléon, de t'adapter à ce qu'on te donne, et ça il l'a très bien fait. J'ai bien aimé moi le fait qu'on le fasse jouer dans différentes positions pour déjà pour lui donner de l'expérience, parce que les jeunes, si tu les fais pas jouer et que tu les fais jouer 2 minutes par match, c'est pas possible qu'ils progressent, quoi.
Une petite gommette pour Christian Dubé, qu'on a beaucoup critiqué aussi à ce micro pour sa frilosité à lancer des jeunes, voilà. Ouais. c'est un pas dans la bonne direction. Même si je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un virage jeunesse.
Non,
je ne crois pas que c'est dans la philosophie
non,
de Christian Dubé, mais voilà, il y a peut-être une petite évolution à noter.
Très bien, on va terminer sur Fribourg-Gotteron. On a encore quelques questions de nos auditeurs qui sont plus personnelles pour toi. Geoffrey, forcément, il s'intéresse à ta
vie. Attention.
Première question, Seba Bonfils veut savoir quel est l'étranger qui t'a le plus impressionné à Fribourg. Alors, on imagine que c'est une question intemporelle ou peut-être des années que tu as passées au club. Qui t'a le plus marqué ?
Que t'as joué avec des étrangers d'ailleurs.
Ouais, alors moi, je dois dire que j'avais été impressionné par Thomas Rodin. Je sais pas si tu t'en souviens.
Bien sûr, bien sûr.
Sacré défenseur. Alors lui, il était capitaine de l'équipe de Suède quand même. Hein. Je veux dire, c'était pas un rigolo, quoi. Moi, j'aimais bien parce qu'il était bon dans tout. Il avait une qualité offensive terrible. Et puis humainement, c'était un mec en or, quoi. Franchement, c'est un mec en or. Alors maintenant, j'ai vu qu'il est coach assistant depuis quelques années. Depuis quelques années, je crois Feierstadt, c'est possible.
Ouais, okay,
je crois qu'il vient de là, lui, il a joué là-bas. Et je suis de temps en temps le championnat suédois, parce que je suis marié avec une fribourgeoise, les gars, mais la fribourgeoise, elle a vécu 5 ans à Stockholm, donc elle est plus suédoise que fribourgeoise.
Donc on va faire un point commun avec Jonas.
Voilà.
Jonas a aussi un peu des...
Ah, bon, ouais. Déjà un prénom un petit peu Jonas, c'est pas mal suédois. Ouais. Ouais.
C'est
donc,
vrai.
Ah, j'ai trouvé un autre fribourgeois qui parle suédois.
Ouais, j'ai quelques notions.
Ah,
de suédois pour y avoir vécu quelques mois et ma copine est à moitié suédoise.
Le monde est petit, tu vois.
On peut aller faire une discussion assise avec les quatre étrangers huit même avec tout ce monde qui parle un petit peu suédois.
Avec Sandro Schmitt.
Et puis Pierre, on va t'apprendre quelques mots pour que tu puisses
pour faire des interviews.
Moi, je ferai des cannelbulles pour l'Afrique.
Ouais. Cannelbulle, je vois que tu t'y connais bien.
Hein, je suis allé à Stockholm, très bon.
Ouais. C'est vrai, ouais. Alors moi j'y vais chaque année parce que bien sûr on est obligé de retourner là-bas, mais j'aime bien cet endroit. Donc voilà, donc Thomas Rodin, l'étranger qui m'a le plus impressionné sur la glace, aussi humainement en dehors de la glace. Ouais. Quoi.
C'est Roland Van Madelen qui est allé le chercher.
Exactement, ouais.
Il avait promis quoi pour qu'il vienne à Fribourg?
Honnêtement, je ne sais
pas. Très sexy,
que,
hein.
Ouais, franchement, de l'avoir ramené ce mec là, et puis après, mais il a pas fait long, il a fait 2 ans. Après, il est retourné en Suède parce que son club formateur le voulait absolument. Puis je pense qu'il avait proposé aussi le fait qu'après sa carrière, il resterait dans le staff de l'équipe, quoi. Voilà.
Parfait. On a une question d'Olivier Demière qui demande si un jour les 3 frangins Vauclair seront réunis au Pécaliste.
Je sais que ça a déjà été tenté. Malheureusement, nos agendas font que c'est très compliqué. Pierre, tu peux confirmer. Moi et Tristan, ça ne nous dérange pas d'être derrière un micro devant une caméra. Julien est beaucoup plus timide. C'est un mec qui n'aime pas être trop devant une caméra. On lui a déjà proposé de venir, mais je vois qu'il se gêne. Il a déjà pas mal de boulot à charge. Ouais, vous imaginez bien qu'en ce moment, il y a pas mal de trucs à faire. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Mais je pense pas tout de suite.
Tristan travaille aussi au HCA Joie.
Tristan, c'est le directeur de tout le mouvement junior du HCA Joie, quoi. Alors, il a pas mal de contacts aussi ici avec Sandy Janin, du fait que Sandy travaille au mouvement junior du HC Fribourg-Gotteron. Et voilà, donc ben, c'est un boulot qui prend, il ne faut pas compter ses heures, je dirais que sur 8 ou 9 mois de l'année, tu n'as pas beaucoup de week-ends, mais il adore faire ça, je dirais qu'il il est en forme, comme s'il jouait encore, c'est une machine de guerre au niveau sport, Tristan, il adore ça, moi je suis un petit peu moins en forme, mais ça voilà, je suis un peu plus épicurien que lui, quoi. Mais bon voilà, c'est la vie, c'est comme ça, mais pourquoi pas une fois, moi j'adorerais être au micro avec mes deux frangins, quoi. On pourrait surtout balancer des trucs les uns sur les autres, qui serait vachement intéressant.
À t'entendre, ce sera plus facile de réunir les trois frères Vauclair au HC à Joie qu'au Pocalis, parce que finalement, il n'y a que toi qui dois y aller.
Ouais,
il y a bientôt un poste d'entraîneur qui va se libérer.
Alors là-bas, tu sais quand tu commences, tu ne sais pas quand tu finis comme entraîneur. Je dois dire que... Ouais, moi je suis quelqu'un, j'ai mon caractère, je suis assez rentre dedans. Il y a beaucoup de gens qui me posent la même question que celle que tu viens de me poser. Voilà, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Donc des fois, on parlait avant du fait que j'ai dû partir de Lugano. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, t'aurais mieux fait de rien dire. Je dis mais moi je peux pas, quoi. Au bout d'un moment, je peux accepter qu'on me dise que je jouais comme une brêle, parce que si c'est la vérité. Par contre, qu'on me dise que je joue mal alors qu'on m'a pas fait jouer, puis ça je vous raccourcis tout le truc du comportement de ce mec par rapport à moi, ça passe pas, parce que moi j'ai pas été éduqué comme ça, quoi. J'ai toujours été éduqué qu'on respecte les gens, même si t'es coach, que t'as gagné deux fois les Jeux Olympiques ou je sais pas quoi, ça reste que du hockey dans le fond, voilà. Donc pourquoi pas une fois Jonas se retrouver avec les frangins, ça serait une bonne idée, moi ça me ferait plaisir. On arrive même plus à se retrouver les trois pour aller pêcher une semaine par année, donc c'est pour vous dire, hein. En Suède.
Là où il y a des lacs à profusion.
Exactement.
La famille Vauclair intéresse, puisque Julien Rohrer veut savoir si tes enfants jouent au hockey. On imagine qu'il est curieux de voir une nouvelle génération Vauclair arriver.
Alors,
sur
du
les
tout.
Patineurs.
Du tout. Mon fils a 22 ans, et aura bientôt 22 ans, puis s'est dirigé dans une autre voie. Il n'a jamais vraiment croché au hockey, puis je n'en veux pas, parce que je pense que j'ai trop vu des parents forcer leur gamin à faire ci ou ça, ou du hockey en l'occurrence, parce que c'est ce qui nous concerne en ce moment, parce qu'au moment ça explose ces choses-là. Donc moi j'ai toujours dit à mes enfants, voilà, tu veux faire quelque chose, fais-le, mais fais-le bien, donne-toi 100%, quoi. Et j'ai une fille qui a bientôt 18 ans, hein, ça ne nous rajeunit pas, hein, puis, qui a bientôt 18 ans, qui est encore aux études, et je pars du principe que moi je dirais je dis à mes parents et à mes enfants, mais écoutez, allez voir du pays, allez voir comme c'est bien, comme c'est ailleurs, pour vous rendre compte de la chance que vous avez d'être en Suisse, parce que le gros problème c'est qu'on pense que, je parle pour mes enfants, c'est que cette génération, on va sortir du monde du hockey, cette génération pense que tout leur est dû parce qu'ils l'ont eu peut-être un petit peu trop facilement, quoi. Je vois par rapport à moi, il y a quand même un sacré décalage. Moi, je viens d'une famille où on était 10 enfants, et puis au niveau pognon, c'était pas facile. Moi, j'étais le plus âgé, donc je voyais pas mal de choses que peut-être mes frères et sœurs se rendaient pas compte, donc c'était très compliqué. Et je me rends compte de ce que mes parents ont fait pour que j'arrive à faire ce que j'ai aimé pendant, et ce que j'aime encore maintenant, parce que ce que je suis en train de faire avec vous, c'est quelque chose que j'adore, hein. Vous m'appelez quand vous voulez, les gars. Voilà, je pars du principe que fais ce que tu as envie, tant que ça reste correct, mais donne-toi la peine. Réalise la chance que tu as de pouvoir faire ce que tu as envie, parce qu'il ne faut pas aller très loin d'ici. Moi, je viens du Jura. Tu prends déjà ta bagnole, tu fais une heure de bagnole, tu rentres déjà en France, tu vas dans certains quartiers, pas très loin de chez moi, où tu discutes avec des gens. Même en France, ça devient très compliqué. Et peut-être qu'ici, un jour, ça va arriver la même chose, quoi.
Sur les 10 enfants, tu étais quand même dans le premier bloc, ou bien tu étais dans
le deuxième? Non, mais sûrement. Alors, il faut savoir qu'on était vraiment que 3 enfants de conçus par nos parents, donc moi et mes deux frères. Puis le reste, c'était des enfants qui ont été adoptés par mes parents, qui viennent de pays très, très lointains, comme il y en a certains qui viennent du Jura, quoi. Donc, c'était une belle expérience, mais il faut dire une chose, on était traités tous la même chose. Mon père, il a acheté une fois des vélos. Il m'a acheté une fois un vélo, mais il en a acheté une fois à tout le monde en même temps. Et puis, je sais qu'ils sont saignés pour nous acheter des vélos, mais c'est une bonne expérience. Et puis, je pense que l'argent ne fait pas tout, quoi. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le hockey, c'était peut-être la petite écart de l'émission.
Voilà. Alors on va te poser une dernière question qui est posée par Kex1938 qui te demande de te mouiller. Qui serait le meilleur directeur sportif pour succéder à Christian Dubé à Fribourg-Gottéron?
J'ai pas peur de me mouiller. Écoute, moi, j'irai dans la continuité. Non, j'ai pas postulé. On m'a posé la question encore l'autre jour. J'étais à Fribourg, au Club des Étoiles. Je sais pas si tu connais ce truc. Oui. Voilà, j'étais au Club des Étoiles. On a bien mangé avec Raphaël Berger, Lucas Gerber et puis Valentin Wirth, que je salue au passage. Freddy Bobillier aussi, pas que je l'oublie parce qu'il va être vexé, le Bob. Et puis on a discuté, puis il y en a pas un de ceux-là, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui m'ont dit « t'as postulé à Fribourg-Gottéron ?» Puis j'ai dit « écoute, je me verrais pas postuler pour une raison, c'est que j'ai mon frère qui est directeur sportif dans un autre club, donc au bout d'un moment, je veux dire, moi ça me poserait un problème, parce que c'est-à-dire que t'es en concurrence.
Alors, on n'irait pas chercher ses joueurs, on pas chercher
il n'y a pas de risque, non, mais voilà quoi. Et puis j'ai dit « par contre, c'est clair que si le club prend contact avec toi, c'est différent, mais là je me serais pas vu moi postuler. » Puis pour revenir à ta question, qui est le gars que je choisirais, je suis étonné, je mettrais Gerd Saint-Auzerne. Parce qu'il est déjà là, il connaît la maison, le boulot n'est pas dégueulasse du tout. Je veux dire, quand tu vois, il faut bien dire une chose, c'est que ce n'est pas Christian Dubé qui est allé voir Borgman jouer. Hein. Je pense que c'est Gerd Saint-Auzerne qui allait le voir jouer parce que Christian avait d'autres chats à fouetter. Voilà, j'aime bien le boulot, j'aime bien Gerd en tant que personne parce que je le connais. Tu sais ce que tu as, comme ça, tu sais comment il marche. Alors, ça aurait pu être. Alors, il y a certaines personnes qui disent « ah, mais il est peut-être trop proche de Christian Dubé » et puis tout ça. Ouais, mais au bout d'un moment, tu es jugé sur comment ça se passe sur la glace. Quoi. Donc, si ça se passe bien sur la glace, t'es le champion du monde, si ça se passe mal, ben, tu fais tes valises, quoi, comme la plupart des coachs. Et je sais pas, parce qu'il y a qui encore en... Ils ont pas reçu tant de dossiers que ça, d'après ce que j'ai entendu. Ils étaient étonnés, ils en auraient bien voulu recevoir plus.
Entre 10 et 12.
C'est pas énorme. Hein.
C'est pas énorme. Et puis, alors, il y a peu de noms qu'on filtrait.
Okay.
Il y a celui de Serge Pelletier, ouais, Dani Gélinas.
Classique.
Ouais, des gars qu'on voit dans le milieu depuis longtemps. Puis c'est vrai que voilà, Gerd a ses chances, mais ça dépendra tout de ce que le club veut faire.
Ouais,
on se dit en même temps que s'ils ont ouvert le poste, c'est peut-être aussi parce que sinon ils auraient pu juste proposer le job à Gerd.
Alors justement, c'est ça, je veux dire, alors, bref, comme je vous ai dit avant, j'ai un peu mon caractère. Si j'avais été à la place de Gerd, puis qu'on vient de me dire « écoute, tu fais le truc comme tout le monde, le process comme tout le monde », je l'aurais pris assez mal parce que je veux dire, je trouvais qu'il y avait un droit quand même pour Gerd d'avoir un petit peu un laissez-passer, quoi, je veux dire. Et voilà, après, je pense que le comité directeur a voulu faire les choses en bien pour pas que ça leur tombe sur le bout du nez si tout d'un coup ça se passe mal. Mais moi, je parle un petit peu avec mon cœur. C'est vrai que, voilà, si j'étais à la place de Gerd, j'aurais préféré que j'ai un petit peu un laissez-passer parce que pour nommer des autres personnes, on se pose beaucoup moins de questions des fois. Mais là, on a voulu faire un truc très... très carré, quoi.
Mais trop officiel.
Exactement. Ouais, mais je sais, d'après ce qu'on m'a dit, Gerd doit passer les assessments, je sais pas comment on dit ça en français, comme tout le monde, quoi. Donc les entretiens, pardon. Ouais, tu vois, l'ancien joueur de hockey, tu vois, il y a plein de mots qui me viennent d'un vestiaire ou sur la glace qui sont purement en anglais, puis j'arrive plus à les trouver en français. Et là, je pense qu'on fait ça aussi pour se protéger de peut-être un retour de manivelle du côté du comité directeur. Mais. Franchement, si tu as quelque chose qui marche bien, pourquoi changer, quoi? Pourquoi changer? Après, je pense que le fait du contact qu'il a avec Christian Dubé, du fait de la fin de saison, a fait qu'on était un petit peu plus sur la défensive. Mais là, je pense que le début de saison de Fribourg parle quand même plus pour Gerd Saint-Auzerne que pour quelqu'un d'autre. Et j'aime bien aussi Serge Pelletier, que je connais depuis longtemps. Mais il me semble que Serge, c'est un peu du réchauffé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En fait, peut-être que tu ne veux pas t'avancer trop sur ça. Mais il me semble qu'il est déjà venu une ou deux fois. Serge, il était directeur sportif, coach. Voilà. Mais bon, après, ça ne veut pas dire qu'il fera mal le boulot s'il est choisi.
Ouais. Après, Gerd, il a fait entraîneur.
Pas longtemps.
Responsable junior.
Pas longtemps. Mais je pense qu'il est mieux où il est que comme entraîneur. Moi, je n'étais pas surpris que ça n'ait pas marché pour Gerd comme coach parce que je connais un peu son caractère. Ouais. Et je pense qu'il est mieux où il est que comme coach, quoi. Tandis que Christian Dubé est peut-être mieux comme coach que comme directeur sportif parce qu'il a une mentalité, il aime bien être en dessous des lumières, quoi.
Ça serait assez cocasse de voir... Gertsen Eilzorn, directeur sportif, Christian Dubé, entraîneur, alors qu'il y a 7 ans,
c'était le commence.
Exactement ouais, l'inverse. Ouais. Voilà.
On verra, ça risque d'être intéressant. Voilà, j'ai pris les risques de m'avancer, et puis j'ai pas peur de le dire, mais voilà.
On verra bien. Merci.
Parfait. C'est moi. Merci pour ton honnêteté.
Avec plaisir.
Merci beaucoup d'être passé à notre micro. C'était un plaisir de discuter avec toi.
On va te laisser remonter à Delémont.
Non, j'ai encore, je dois rester encore 2-3 heures à Fribourg. Mais
on en profite bien.
Merci. Oui, fait toujours bon. J'achète de la fondue, des trucs comme ça. Toi, parce que les gars, il faut laisser la fondue fribourgeoise. Déjà, je ne peux pas manger autre chose à la maison parce que tu mens bien qu'une fribourgeoise. Elle va te dire non, tu. Une fondue qui est autre chose qu'une fondue fribourgeoise, ça va pas jouer. Donc ma femme, elle dit, c'est fribourgeois.
Tu mets des boulettes de viande dans la fondue pour faire un petit peu une...
Les Suédois avaient fait ça. Quand elle était en Suède, ils avaient acheté de la viande, puis ils faisaient une fondue chinoise en même temps que la fondue au fromage, puis ils tournaient la viande dans le fromage.
Sacrilège.
Ouais. Personne n'est parfait. Voilà, merci
parfait.
Beaucoup.
Merci Pierre pour ton expertise.
Merci Jonas pour
merci Jonas.
Grande première.
Ouais,
bravo.
Pas mal, ouais. Ouais. T'en es bien
merci
sorti.
Beaucoup. On te reprendra.
Merci à tous nos auditeurs pour votre fidélité. Rendez-vous tout bientôt pour un prochain épisode de Point de Vue.
Bye.
Merci beaucoup.
C'était Point de Vue avec Gérama, depuis plus de 30 ans au service de l'immobilier fribourgeois.
Vous venez d'écouter Point de Vue, le podcast de la liberté consacré à l'actualité de Fribourg-Oteron. Si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous sur votre app de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur laliberté.ch et l'application de la liberté. À bientôt pour un nouvel épisode.